La nuit, les araignées, les soucis, le dentiste, beaucoup de choses. En Marc 4, les disciples ont peur. Ils traversent la mer de Galilée dans leur petit bateau de pêche, quand il s'éleva un grand tourbillon. Étrange qu'ils aient peur, hein? La moitié de ses disciples sont des pêcheurs professionnels, des hommes qui connaissent la mer de Galilée. Mais la mer de Galilée est dans un creux entouré de collines, et de ce fait-là, le vent tourne facilement en tourbillon. Et puisque sa superficie est assez petite, 21 km sur 13 à peu près, et puisque l'eau pour la plupart est peu profonde, en un rien de temps, ce tourbillon peut transformer la surface habituellement très calme de la mer Galilée en un rage d'eau avec des mètres qui peuvent dépasser 3 mètres de haut. Alors il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est mauvais ça. L'eau doit rester en dessous de la barque. Ça c'est bon. Mais quand l'eau vient dans la barque, ça c'est mauvais. Et même si nous ne sommes pas pêcheurs et nous n'avons jamais vu la mer de Galilée, nous comprenons très bien le danger que courent maintenant les disciples. Les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Ça ne va pas durer longtemps. N'est-ce pas? Les disciples sont habitués aux tempêtes de leur mer de Galilée. Mais cette tempête-ci semble être quelque chose de plus grave que ce qu'ils connaissent d'habitude parce que maintenant, ils ont peur. Très peur. Même peur de mourir. Oui, mais Jésus est avant. Faut pas avoir peur. Jésus est avant. Mais Jésus à bord ne garantit pas que les disciples soient à l'abri de la tempête. Et Jésus à bord de notre barque de vie ne garantit pas qu'il n'y ait jamais des tempêtes. Est-ce que la barque de votre vie se remplit parfois? La Bible enseigne que rien ne se passe dans notre vie par simple coïncidence. Ce serait un autre message pour expliquer cela. Mais les tempêtes par lesquelles Dieu nous permet de passer ont toujours une raison. Vous avez compris ça? Les tempêtes par lesquelles Dieu permet que nous passions ont toujours un but. Jean 9, l'aveugle né, les disciples demandent à Jésus, qui a péché, cet homme ou ses parents? Qu'il soit né aveugle. Jésus répond, pas lui, pas ses parents ont péché. Il est aveugle afin que le but de son aveuglement, le but du fait qu'il soit né aveugle et il a déjà plus de 40 ans, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors toutes les tempêtes que Dieu permet dans la vie de ses enfants ont des buts. L'apôtre Jacques, a bien compris ce principe. Il écrit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Moi, j'ai mis dans mes notes, point d'exclamation. « Toutes les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sujet de joie. » J'ai un rendez-vous au dentiste pour le mois de décembre, j'ai peur déjà. C'est jamais un sujet de joie. Et en plus, on paye pour se faire torturer. N'est-ce pas? Sujet de joie. Regardez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quelque chose. Si Dieu permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie, des tempêtes, c'est parce que par ces épreuves, par ces tempêtes, il veut produire quelque chose. À vous, écrit l'apôtre Pierre, qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans ces derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Le salut qui sera révélé dans les derniers temps. C'est là que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, je l'ai souligné, le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore une fois, mettre nos émotions dans le contexte de l'éternité. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Quelle différence entre le comportement de Jésus, la réaction de Jésus à la tempête, et le comportement, la réaction des disciples. Jésus dit, Marc dit que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples tremblent, Jésus dort. Est-ce que vous avez remarqué exactement où Jésus dort? Ça, c'est dangereux. Si celui qui tient le gouvernail dort dans la tempête, nous sommes tous condamnés. Les disciples sentent le vent, ils voient les vagues, les flots qui se jettent dans leur barque, la barque qui se remplit. Alors ils réveillent Jésus et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils n'ont pas réveillé Jésus tout de suite, n'est-ce pas? Ils l'ont laissé dormir. Quand la tempête s'est levée, ils se sont dit, « Bon, c'est pas grave, on connaît les tempêtes sur la mer de Galilée. » Et puis Jésus a raison, il a eu une journée très fatigante, on va le laisser dormir. Nous nous en sortirons tout seuls. Mais quand le vent commence à souffler plus fort et eux, ils commencent à se sentir mal à l'aise, ils doivent se dire, eh ben, Jésus doit être très fatigué, n'est-ce pas? Il n'a même pas mal de mer. Il dort. Mais quand les flots commencent à remplir le bateau et ils ne maîtrisent plus la situation, leur compassion se transforme en reproche. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils accusent Jésus d'être indifférent. Eux, ils périssent, tandis que lui, il dort. Il pourrait au moins se réveiller, nous aider à vider l'eau de la barque. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que Jésus est indifférent? Soyons honnêtes, il nous semble parfois que Jésus ne réagit pas à nos tempêtes, n'est-ce pas? Nous crions, nous prions, nous croyons et rien ne change. Mais Jésus n'est pas indifférent. Le roi David, de nouveau, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Prophète Ésaïe, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? On les comprend, n'est-ce pas? Il semble que Jésus ne s'inquiète pas. Eh bien, ils ont raison, il ne s'inquiète pas. Jésus ne s'inquiète jamais. Parce que pour Jésus, il n'y a jamais de surpris. Rien ne le surprend, il le sait d'avance. Pourquoi est-ce que Jésus ne fait rien alors? Pourquoi est-ce qu'il tarde à faire quelque chose pour nous aider et nous sortir de la tempête quand les flots remplissent notre barque? Pourquoi est-ce qu'il continue à dormir alors que les disciples risquent de mourir? Parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger? Si cela est le cas, Jésus n'est pas omniscient. Ou peut-être ils se rendent bien compte de ce qui se passe, mais il est impuissant et il fait quelque chose. Alors dans ce cas-là, il n'est pas omnipuissant. Ou encore une troisième possibilité. Il sait très bien que nous sommes en danger de mort. Il est tout à fait capable de faire quelque chose, mais il s'en fiche. Si ça c'est le cas, l'apôtre Jean ment quand il écrit « Dieu est amour ». Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le problème des disciples, c'est qu'ils ne font pas de distinction entre indifférence et paix. Jésus ne dort pas parce qu'il est indifférent, il dort parce qu'il a la paix. Il dormait à la poupe sur le coussin. Dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, le texte que notre sœur a repris dans sa prière, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » C'est une paix spéciale, ça. La paix de Dieu lui-même. Pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble. Point. Ne s'alarme point. Il parle des émotions, non? Le cœur. Pierre, un des disciples qui a expérimenté cette tempête, expérimentera cette paix quelques années plus tard. Quand il est sur le point d'être exécuté par le roi Hérode, acte chapitre 12, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était lié de deux chaînes et dormait, lui aussi maintenant, entre deux soldats. Est-ce qu'on peut dormir sous des circonstances pareilles? La prison d'Hérode, savez-vous, frères et sœurs, n'était pas comme les prisons 5 étoiles que nous connaissons en Belgique aujourd'hui. Pierre dort. Il ne fait pas une petite somme, n'est-ce pas? Il dort profondément. Comment est-ce que je le sais? Parce que quand l'ange arrive pour le réveiller, il doit lui donner un coup dans son côté pour le réveiller. Il n'a pas seulement fermé les yeux. Comment est-ce qu'il peut dormir si paisiblement, Pierre, quand demain il va être exécuté? Parce qu'il jouit de ce que l'apôtre Paul décrit comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une émotion qui surpasse l'intelligence, la connaissance. Quand la connaissance nous dit danger, danger même mortel, la paix de Dieu dans notre âme nous donne la tranquillité. Mais dans la tempête, Pierre et les autres disciples crient, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils n'ont pas compris que quand Jésus dort, il se repose, mais il n'est pas inconscient. Il ferme ses yeux, mais il n'est pas aveugle. Il ferme ses oreilles, mais il n'est pas sourd. Et le roi David a compris cela aussi. « Celui qui te garde ne sommeillera point. » Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Jésus dort, mais son cœur veille. Et dès que les disciples le réveillent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, c'est toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Jésus, dans la barque de notre vie, ne nous protège pas contre des tempêtes. Mais Jésus, dans notre vie, nous garantit que nous arriverons sains et saufs. Quand Jésus a calmé la tempête et tout le monde a retrouvé un peu son calme, Jésus dit ceci, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ici, il y a une leçon. Vaincre la peur par la foi. La foi n'est pas une émotion. La peur est une émotion, mais la foi n'est pas une émotion. La foi est une décision. Une décision consciente, pas un sentiment, pas une émotion, une décision consciente et surtout, la foi est une action. Et la foi biblique est une décision consciente de croire à la parole de Dieu, croire aux promesses de Dieu, une décision de les mettre en pratique. Parfois au-dessus et au-delà de nos circonstances, c'est-à-dire d'agir par la foi et non par la vue. Car, dit Paul, nous marchons par la foi, non par la vue. Les disciples s'adressent à Jésus avec leur peur. Et Jésus nous invite, nous aussi, à nous adresser à lui. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Vous avez des soucis, mais venez à moi avec vos soucis. Je vous donnerai du repos. Ma paix. Encore une fois, David, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Alors, ne nous effrayons pas quand une tempête éclate dans notre vie. Ne paniquons pas, mais adressons-nous à Jésus. Crions vers lui. Jésus entend le tourbillon, les vagues, mais ils ne les écoutent pas. Connaissez la différence entre entendre et écouter? J'ai un petit-fils de 12 ans. Il entend quand sa maman lui dit « va te coucher ». Entendre, oui, mais pas toujours écouter. Voyez la différence? Et souvent avec nous et le Seigneur, c'est la même chose. Nous entendons, mais nous ne les écoutons pas. Encore une fois, David. L'Éternel entend quand je crie à lui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors s'étant réveillé, Jésus menaça le vent, dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Si nous décidons consciemment de mettre notre confiance entièrement en Dieu, si nous refusons de permettre au diable de nous envahir de peur et d'angoisse, alors nous expérimentons la paix qui dépasse toute intelligence et Dieu nous vient en aide. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. C'est une décision. Que peut me faire un homme? Quatrième émotion, la déception. Vous n'avez jamais été déçu? Dans vos amis, dans votre patron, un membre de la famille, votre pasteur, non, pas ça. En Dieu? Devant le tombeau de son ami Lazare, Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Mais si c'est le verset le plus court, c'est un verset qui nous apprend un des principes les plus grands de toute la Bible. C'est-à-dire que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis à des épreuves en tout point semblable. Quel principe? Nous ne pourrons jamais venir à Jésus, lui expliquer notre besoin et lui dire « Mais malheureusement, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que je sens. Tu ne sais pas ce que je traverse. » Parce que là où nous sommes, Jésus a déjà été. Jésus pleura. Jésus pleure devant le sépulcre où son cher ami Lazare a été enseveli il y a 4 jours. Pourquoi est-ce que Jésus pleure? Vous vous êtes jamais posé cette question, pourquoi est-ce que Jésus pleure? Parce qu'il partage le deuil de Marthe et Marie et les sœurs de Lazare et des Juifs. Bien sûr qu'il partage leur peine. Jésus est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il partage leur peine. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et les Juifs pensent que les larmes de Jésus sont des larmes de deuil. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Bon, il est normal de pleurer un mort, non? Cependant, le mot grec dans le texte original, qui décrit ces larmes que Jésus pleure devant le sépulcre de Lazare, ne parle pas de deuil. Ce ne sont pas des larmes de deuil que Jésus pleure. Ce sont des larmes de déception. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que Jésus pleurerait des larmes de deuil? Il sait que d'ici quelques instants, il va ressusciter Lazare. Il n'y a pas de raison à pleurer des larmes de deuil. Non, ce sont des larmes de déception. En grec, ce n'est pas le même mot. Jésus pleure parce que Marthe, Marie, les Juifs ne comprennent pas, ne croient pas son évangile. Quelle déception! Et Marie, Marthe, les Juifs sont comme beaucoup de croyants. Nous croyons en Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons, mais devant une réalité pénible, telle que la mort ou une autre catastrophe, nos âmes et nos esprits ne sont pas dominés par ce que nous croyons, mais par ce que nous voyons et ce que nous sentons. Marthe et Marie sont tristes parce que leur frère est mort. C'est normal. Elles sont déçues parce que Jésus est arrivé trop tard. Marthe dit au Seigneur, « Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous entendez la déception dans sa voix, même un peu d'amertume peut-être. Et Jésus veut la délivrer de sa déception. Comment? En lui révélant, et ici un grand secret dans toutes les émotions, en lui révélant la dimension divine de sa situation. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs, les dimensions naturelles, terrestres, de ce que nous vivons et expérimentons dans notre vie de tous les jours sont souvent tristes, parfois incompréhensibles, décevantes. Mais l'évangile de Jésus-Christ ajoute une nouvelle dimension, une autre dimension, une dimension, une quatrième dimension, si vous voulez, à notre vie trois-dimensionnelle. La dimension divine, spirituelle, céleste, éternelle, qui nous permet de voir nos circonstances comme Dieu les voit. Non seulement comme le monde les voit, non seulement comme nous les voyons nous-mêmes, non seulement comme le diable nous les présente, mais comme Dieu les voit. Et Jésus a compris la dimension divine de cette situation dès qu'il a reçu la nouvelle de la maladie de Lazare. Il dit à ses disciples, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Il a compris quelque chose que les sœurs ne savent pas encore comprendre, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et sa compréhension de cette dimension divine fait qu'il réagit tout à fait différemment que Marie et Marthe et les Juifs. Et alors, devant le sépulcre, il ordonne ôter la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, « Seigneur, il sent déjà. Déjà 4 jours qu'il est là. » Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ôtez la pierre. » Ils ôtèrent donc la pierre. Qu'est-ce qui sort du tombeau ? Une mauvaise odeur ? Non, le mort sortit. Les pieds, les mains, liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus transforme la déception en gloire. Est-ce qu'il y a des gens ici, ce matin, parmi nous, qui se trouvent tristes devant un sépulcre où sont ensevelies leurs déceptions? Permettons à Jésus de nous révéler les dimensions divines de nos circonstances, de rouler la pierre de nos tristesses et de nos déceptions, afin qu'il puisse transformer nos larmes et nos tristesses en bonheur, joie, victoire, allégresse. Remplacer nos déceptions par la joie de son salut et la gloire de Dieu. Encore une fois, nous pouvons gérer nos émotions. Ne pas nous laisser vaincre, emprisonner par nos émotions, en cadrant nos situations et nos circonstances dans le dessein, le plan, la volonté parfaite de Dieu. Les voyons comme Dieu les voit. Nous ne nous laissons pas enfermer dans notre passé. Soupirons à l'avenir glorieux que Dieu nous a préparé. Je passe vite à la dernière émotion ce matin. Dernière émotion, quelque chose dont on ne parle jamais, mais dont nous souffrons tous, la honte. Très difficile à gérer, la honte. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous avez honte? Quelque chose dans votre passé? Moi, j'ai des choses dans mon passé dont j'ai honte. Je ne vais pas vous dire lesquelles. Vous savez beaucoup pourquoi je ne vais pas vous les dire? Parce que j'en ai honte. N'est-ce pas? La honte est souvent une conséquence du péché. Pas toujours, mais souvent une conséquence de péché. Un péché passé et ou un péché actuel. Un péché que nous essayons d'ignorer ou même de renier, mais un péché qui menace toujours notre sanctification. La honte peut également être causée par autre chose, par exemple une mauvaise attitude ou une négligence. On peut avoir honte de son apparence, on se trouve trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Et la honte peut avoir un très long parcours, durer longtemps, même très longtemps. La honte est une des tortures les plus pénibles, les plus dévastatrices de l'âme. Elle peut nous plonger dans la solitude, dans l'auto-accusation, dans l'auto-condamnation, dans le désespoir. Une des raisons pourquoi la honte est si difficile à gérer, c'est parce que d'habitude, elle reste privée. Nous ne parlons pas facilement des choses dont nous avons honte. En principe, pour un chrétien, il n'est pas nécessaire d'en parler. Car si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir honte des péchés que nous avons déjà confessés. Vous pouvez dire amen? Nous n'avons pas besoin d'avoir honte des péchés que nous avons déjà confessés. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, ce que j'attends et ce que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais dans la pratique, la honte est souvent difficile. Parce que nous avons peur que la raison de notre honte soit connue publiquement. Le prophète Jérémie a honte. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Nous avons notre honte pour couche, notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Et le roi Salomon se base peut-être sur une expérience personnelle quand il conseille « Ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte. » Et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Chantons-nous avec les fils de Corée, ma honte est toujours devant moi. La confusion couvre mon visage, ou avec le roi David, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, l'opprobre me brise le cœur. Ou prions-nous avec David, mon Dieu en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. L'apôtre Paul parle plusieurs fois de la honte dans son épître aux Romains. Écoutez. Je n'ai point honte de l'Évangile, ça c'est bien. Au chapitre 6, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est comme ça qu'il commence le chapitre et puis il continue avec quelques contrastes entre le péché et la grâce. Entre ce que le péché réalise dans nos vies, dans le passé, et ce que la grâce réalise dans notre vie actuellement. Et le chapitre atteint son climax au verset 17-18. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Formidable. Ce serait très bien si le chapitre 6 des Romains terminait là. Mais termine pas là. Paul ajoute un petit PS. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Il doit y avoir une erreur, non? Paul, attends un instant. Est-ce que c'est juste ce que tu écris là? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Tu aurais dû écrire des fruits dont vous vous rougissiez hier. C'est pas logique. Si Dieu nous a permis, si Dieu nous a sauvés, pardonnés, nous avons confessé nos péchés, pourquoi toujours en rougir aujourd'hui? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, etc. Dieu dit lui-même, c'est moi qui efface tes transgressions. Je me souviendrai plus de tes péchés. J'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton hérissage? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il aura compassion de nous, mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tout le péché. Aussi mon péché, mon passé est effacé, jeté au fond de la mer. Dieu ne se souvient plus. pourquoi est-ce que je dois encore rougir aujourd'hui? C'est pas logique. Paul, il doit y avoir une erreur, ou peut-être une erreur de traduction, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur. Au contraire, le Saint-Esprit semble même bien vouloir insister sur l'actualité de la honte, en ajoutant le mot « aujourd'hui », qui n'est pas nécessaire, c'est superflu. Des fruits dont vous vous rougissez, c'est déjà au temps présent. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter « aujourd'hui ». C'est comme si l'apôtre Paul veut le souligner. Eh bien, dans l'Ancien Testament, la honte était aussi souvent au temps présent. David dit « Ma honte est toujours devant moi. Esdras, j'ai honte, temps présent, ô mon Dieu, de lever ma face devant toi, car nos iniquités se sont multipliées. » Jérémie, « Je suis honteux et confus, car je porte au temps présent l'opprobre des fruits dont vous rougissez toujours, aujourd'hui, encore. » Même après avoir confessé, même après avoir reçu le pardon. La honte a une très longue histoire. Où est-ce qu'elle a commencé? La honte. Dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte, au début. Ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis l'un de l'autre, parce qu'il n'y avait aucune pensée de péché, aucun désir de péché. Mais quand ils mangent le fruit de l'arbre défendu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ont cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont souvent soudainement honte de leur nudité? Nous savons pourquoi, n'est-ce pas? À cause de leur péché. Ils cousent des feuilles de figuier. Mais ils se rendent compte très bien que leurs feuilles de figuier ne cachent pas leur péché. Parce que quand ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachent devant l'Éternel. L'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu, je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je savais défendu de manger? » À ce moment-là, qu'est-ce qu'Adam et Ève auraient dû faire? Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste. Mais ça, c'est verset 9, 1 Jean, premier chapitre. Eux, ils restent en verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché. Ils essayent de se justifier, de s'excuser. Adam dit, c'est pas ma faute, c'est la femme. Ève dit, c'est pas moi, c'est le diable. Il y a deux types de pécheurs, frères et sœurs. Deux types. Ceux qui essayent de couvrir la honte de leur péché avec toutes sortes d'excuses et de justifications, ceintures de feuilles de figuier. Et ceux qui confessent leur péché et qui permettent au Seigneur de les pardonner et de les laver avec son sang. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachaient devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme, « Où es-tu ? » « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de marcher ?» Ils essayent de se justifier, de s'excuser. La femme, c'est pas ma faute, c'est la sienne. Le serpent m'est séduit, c'est pas ma faute, c'est le diable. Si nous faisons ça, nous gardons notre honte. L'Éternel les chassa du jardin d'Éden. Ils ont mal géré leur honte. Regardons maintenant quelqu'un qui gère sa honte très bien. Dans trois des évangiles, nous rencontrons une femme très effrayée au pied de Jésus. Elle est effrayée parce qu'elle a honte. Elle souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. La loi juive dit qu'une perte de sang est honteuse. Et elle, femme impure, vient d'avoir touché le vêtement de Jésus, défendu par la loi. Personne impure ne peut pas toucher une personne pure. Et sa honte vient d'être dévoilée. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité. Quelle est la réaction de Jésus maintenant? Comme la réaction de Dieu contre Adam et Ève, parce qu'elle a transgressé le commandement divin, est-ce que Jésus va la juger, la condamner, la renvoyer, comme Dieu a chassé Adam et Ève? Non. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Sa honte à elle ne l'a pas repoussée à renier ce qu'elle a fait. Au contraire, elle l'a confessé. Elle s'est jetée à ses pieds, elle lui a dit toute la vérité. Et la foi en Jésus, la soumission à Jésus, permet de vaincre et de chasser toute honte. J'ai commencé ce matin à Golgotha. Je termine là où en fait toute prédication termine ou aboutisse, à Golgotha. La plus grande honte de l'histoire, la plus grande souffrance de l'histoire, la plus grande déception, dépression, anxiété se passe à Golgotha. La loi juive dit « Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Mais à la croix, Jésus transforme cette malédiction, cette honte, en gloire et rédemption. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la honte de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois ». Comment est-ce que Jésus gère cette honte, humiliation de la croix? Oh, il peut l'éviter. Il n'a qu'à faire ça et plus de 12 lésions d'anges viennent pour le sauver. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais Jésus n'appelle pas les anges. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, dit la Bible. Jésus a accepté de prendre notre honte, la honte de nos péchés, sur lui. Il a accepté la honte de la crucifixion à notre place. Il n'a point permis à la malédiction et à la humiliation de la honte de la croix de l'été tourner du plan et de la volonté de Dieu. Pendant 3 heures, Dieu a couvert sa honte. La dernière honte que les Romains lui ont infligé, c'est la nudité. Les Romains mettaient toujours leurs victimes à nu. Une dernière humiliation. Dieu a couvert son humiliation. Pendant 3 heures, le soleil n'a pas brûlé. Jusqu'à ce que Jésus crie d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri si fort que la voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Après cela, Jésus, qui savait que tout est déjà consommé, afin que l'écriture soit accomplie, dit j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche, d'hysope, ils l'approchaient de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Jésus a accepté de mourir à la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Vaincre nos émotions, gérer nos émotions, peut être résumé en cela. Mourir à nous-mêmes, afin de vivre pour lui. arrêter d'être le centre nous-mêmes de notre vie et faire de Jésus le centre de notre vie. Qui fait de Jésus le centre de sa vie ne sera jamais déprimé, déçu, soucieux, anxieux, honteux. Je conclue. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et merci beaucoup de votre attention. Amen.